en les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Dans cette orientation d'éveil, et avec une motivation de bienveillance universelle, nous entrons en refuge et développons bodhicitta, comme on dit. Ce soir, il est 7 heures en Avalon et nous allons continuer dans la série de nos entretiens des thèmes divers et variés qui constituent une façon de répondre aux questions qu'on se pose le plus généralement. Nous avions fait, nous le rappelions l'autre fois, un petit opuscule, un petit livre, il y a des années, Le Dharma et la vie, et nous souhaitons continuer ainsi des questions que l'on pose fréquemment. Donc, c'est l'occasion d'ouvrir le plus largement possible en donnant la parole à tout un chacun. Toutes les questions sont bonnes, puisque c'est par définition ce que l'on aurait envie de savoir, et c'est le moment de l'exposer. Il y aura d'autres séries qui sont en préparation, nous en parlerons bientôt. J'ai entendu dire qu'il y avait eu beaucoup de questions qui étaient arrivées, donc Sacha, s'il vous plaît, dites-nous.
Bonsoir Rinpoche.
Bonsoir.
Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui sont sur Internet. Alors oui, effectivement, Rinpoche, il y a eu beaucoup de questions. C'est-à-dire que vous en avez à votre droite, dans la petite boîte. J'ai pensé que ce serait peut-être mieux de vous laisser l'ouvrir. Et donc il y en a d'autres qui me sont arrivées à moi de manière anonyme.
De piocher, alors.
Ben, peut-être qu'on pourrait alterner, parce que je sais qu'il y a aussi dans la salle des gens qui voudraient poser des questions. Donc peut-être d'alterner entre la boîte, mes papiers et la salle et éventuellement Internet sur ces quatre...
Vous n'avez pas eu l'occasion de regrouper par thème les questions?
Non, pas encore, ça, c'est venu assez tard.
Donc nous perfectionnerons...
À l'usage.
Tout en avançant. Donc je tire la première question... Pouvez-vous nous parler sur comment peut-on utiliser le sadhana de Chenrezi pour travailler sur les passions? Là, je vais d'abord répondre de façon très courte, parce que chaque question pourrait donner lieu à des développements très longs. La pratique de Chenrezi est la pratique d'immense bonté, la pratique de l'immense bonté de l'éveil, de cette bonté qui est amour, compassion, joie et équanimité. Donc la question est comment ces qualités qui se développent dans la pratique de Chenrezi sont-elles pertinentes pour travailler avec les passions? La compassion est un remède à la colère, la joie à la tristesse, l'équanimité aux saisies partisanes et partiales. De plus, la pratique de Chenrezi et globalement une pratique qui développe aussi le repos de l'esprit et qui nous amène dans ce repos à l'intelligence de la nature même de l'expérience, dans la phase de Dzorim, qui était l'aspect de l'acton, dont l'on apprend à calmer, pacifier son esprit, à apaiser le flot des pensées, à apaiser aussi l'ardeur des passions. Il y a une pratique de libération dans ce sens, et avec celle-ci aussi une intelligence de la nature insubstantielle vide des pensées et des passions qui libère de leur emprise et de notre assujettissement à celle-ci. Donc, d'une façon simple et générale, la pratique de Chenrezig résume les différents aspects du dharma, les différents aspects de ces pratiques, et l'accomplir est de différentes façons un remède à toutes les passions. De la façon la plus simple, une émotion conflictuelle qui émerge en soi, réciter Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, dans une attitude de présence, de douceur et de détente, d'ouverture, présence ouverte, présence attentive dans la récitation. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, plutôt que de suivre l'émotion, la passion, très simple, et en même temps c'est un moyen extrêmement profond et efficace. Sacha, c'est vous à votre tour alors, s'il vous plaît.
Eh bien, j'y vais. Donc, alors une question de là par thème, on peut dire qu'il y a dharma de façon technique et il y a plus des questions de vie. Donc juste pour une question qui est peut-être plus de vie et d'expérience directe, sans doute c'est pas complet, mais c'est en tout cas ce qui en ressort. Est-ce donc normal de vous en vouloir régulièrement ?
Ça n'est pas obligé.
Non, j'entends bien.
Ça n'est pas nécessaire. Mais ça peut arriver. Le rôle du lama, le rôle du maître, est d'abord de peut-être vous mettre un tapis sous les pieds. On a d'abord besoin d'appui. On a d'abord besoin de repères, on a besoin de se structurer, on a besoin de développer un bon ego, un ego bien structuré, c'est-à-dire harmonieux, articulé, qui ne soit pas un ego dur, rigide, dans le développement de vertus, de développer l'ego d'une bonne personne. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas avoir d'ego. Et un bon ego est un ego capable d'échange, capable de communication, capable de travailler, capable d'aimer, donc bien articulé. Un bon ego est un ego altruiste aussi. Une bonne personne ouverte, aimante, accueillante, réceptive, disponible. Donc, le dharma et l'enseignant du dharma va toujours d'abord nous donner des bonnes bases, ainsi pour pouvoir nous structurer et mener une bonne vie, bien vivre. Pour aller ensuite, c'est ce que l'on nomme le développement de vertu. Le développement de vertu, le développement de bienfaits, c'est le premier des deux développements. Le deuxième développement est le développement de gnose. Là, la dynamique est inversée. Il ne s'agit plus de construire, mais il s'agit de déconstruire. La gnose est l'expérience première, l'expérience directe, immédiate, non conceptuelle. Donc, il s'agit de pouvoir dépasser les fixations conceptuelles telles qu'elles soient. Il s'agit de pouvoir dépasser les croyances ou les adhésions, les fixations, les identifications, les saisies, quelles qu'elles soient. Et là, le rôle du maître est, s'il discerne en nous des saisies et des fixations, de non seulement les mettre en évidence, mais de les prendre à contre-pied, d'une certaine façon, ou de, et d'avoir un rôle déstabilisateur, plutôt que de laisser le disciple ancré dans sa certitude, je sais, j'ai compris, c'est comme ça. Et à ce moment-là, le maître dit, chut, c'est là qu'il lui tire le tapis. Il dit, non, c'est pas comme ça. Et il le met en situation d'incertitude et par là même de nouveau de questionnement, de remise en question. C'est très important, c'est nécessaire, c'est indispensable, et cela peut avoir un caractère déstabilisant, et c'est même bien le propos, puisqu'il s'agit de ne pas rester stable dans des repères conceptuels limités. Mais il est nécessaire et important de comprendre cette fonction du maître, cette fonction du lama, aussi bien dans le développement de vertu qu'ensuite dans le développement de gnose, et d'apprécier son action, d'apprécier son action éveillante, qu'elle soit dans la construction de ce qui est positif ou dans la déconstruction de ce qui est, si ce n'est négatif, en tout cas illusoire. Et si l'on comprend ainsi son activité dans ce sens, on peut l'apprécier, on peut même avoir de l'estime, de la gratitude, et on dit même une dévotion, c'est-à-dire un sentiment de respect, d'aspiration, une connexion positive. Très important. Et il est une parole aussi qui dit le meilleur conseil est celui qui pointe sur la faute cachée. Si l'on a un problème particulier, et c'est le meilleur aide. Alors c'est sûr, si on réagit, mais laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de... il peut y avoir cette attitude, mais c'est une erreur, et il est important de pouvoir accueillir donc même ce que l'on peut percevoir comme des critiques ou des remises en question de façon positive, car cela fait partie du cheminement et constitue même dans sa dynamique quelque chose d'essentiel.
Merci, Lama. Alors, je me tourne vers la salle, peut-être. Alors, je vais d'abord me tourner vers... alors, comment je vais faire? Plutôt vers la salle d'abord, la première idée. Et donc, un micro pour Olivier au premier rang.
Vers la maison de la sagesse, avec Olivier, s'il vous plaît.
Bonsoir, Rinpoche. J'avais une question. Comment un disciple qui est aussi un papa, papa de garçon de 11 et 15 ans, et qui sent une réelle motivation dans l'idéal du bodhisattva, comment ce papa peut-il annoncer à ses enfants qu'il ne va pas les voir pendant 4 ans pour le bien de tous les vivants?
Mais il faut d'abord que le papa se pose la question de savoir si c'est opportun. Et si c'est bien, et quel est le contexte familial, de la famille élargie, l'encadrement et les personnes qui vont être dans le rôle paternel, dans le rôle maternel, pendant éducateur, et donc si la situation est bien, si la situation est propice, adéquate, il est possible d'expliquer, de faire comprendre que c'est comme si papa fait un voyage lointain pendant quelques temps, et c'est bien que papa explique pourquoi et sa motivation. Honnêtement, pas en racontant des phrases comme ça stéréotypées, et que ce n'est pas, si papa est absent, de toute façon, il a prévu, tout a été bien prévu pour leur bien, et ça n'est pas du tout une situation d'abandon ou de demande d'amour, simplement pour devenir un meilleur papa et pour pouvoir mieux aider ses enfants, pour pouvoir mieux leur transmettre ce qu'il comprend comme étant le plus important, pour pouvoir mieux les accompagner, eux et d'ailleurs tous les autres, tous leurs semblables. Donc, expliquer cette démarche et qu'il se soit compris comme étant non pas une attitude de, va sans dire de rejet, mais pas, même pas d'abandon, mais comme une façon d'être plus à leur service, plus disponible, et de faire quelque chose qui va être bon pour papa, lui permettre d'être un meilleur papa, et donc bon pour les enfants. Mais il faut que ce soit vrai, et que la situation soit véritablement celle-ci, et qu'elle ait été bien considérée, et qu'elle soit bien vécue dans ce sens.
Merci Irène Poitier. Je me tourne maintenant vers Monsieur Internet.
Bonsoir Irène Poitier. Une question donc d'Élodie de Metz. Le Bouddha a dit que l'éveil est à la portée de tout le monde. Pourtant, il y a eu peu de Bouddhas. Tout le monde peut-il vraiment atteindre l'éveil? Ou alors, quels sont les bienfaits de commencer la pratique, même sans aller jusqu'au bout?
Alors, oui, tout le monde peut atteindre l'éveil. Pourquoi? Parce que tout le monde a la nature de Bouddha. Et parce que, au fond du fond, nous sommes déjà Bouddha. Bouddha est en nous. Bouddha est en soi. Mais voilé. Voilé par différentes enveloppes qui masquent cette nature éveillée, ce fond du fond de notre cœur et de notre esprit. Donc, tout le monde peut dévoiler, enlever ces masques et réaliser cette nature pure qui est notre nature la plus profonde. Il y a peu de Bouddhas, c'est vrai, parce qu'il y a peu de personnes qui arrivent jusqu'au bout du dévoilement, jusqu'au bout du processus de développement dont nous parlions tout à l'heure, de développement de vertu, de développement de gnose et de dévoilement, de dissolution des enveloppes les enveloppes des passions, les enveloppes des illusions. Et on dit que la nature de Bouddha, bien que présente en chacun, est plus ou moins masquée. Chez certaines personnes, elle est relativement proche. Chez d'autres, elle est plus lointaine. Chez d'autres encore, elle est très lointaine. Ça dépend de l'épaisseur des couches de voile que l'on a. Mais tout le monde peut atteindre l'éveil, tout le monde peut arriver à se libérer des passions et des illusions. Et dans votre question, j'entends une troisième partie qui est à quoi cela sert-il si l'on n'arrive pas à l'état de Bouddha ? L'état de Bouddha est la libération ultime, la libération parfaite, avec la plénitude des qualités éveillées, la plénitude du bonheur et des bienfaits de l'éveil. Si l'on ne fait qu'une partie du cheminement, ça n'est pas parfait, mais c'est déjà autant d'accomplir. Et c'est comme se demander, à quoi ça servirait d'aller mieux si ça ne va pas parfaitement bien? Il faut déjà toujours mieux que ça aille mieux, même si ce n'est pas encore parfait. Et mieux ça va, mieux c'est, et plus l'on progresse, plus l'on avance sur la voie, mieux ça va pour les autres et pour soi et pour les autres. Merci. Elodie ?
Je vous propose, suivant la tournante, disons.
Bon. C'est une question de Patrice du Luxembourg qui dit, dans la méditation sur les émotions, comment faire pour ne pas mélanger les pensées et les émotions? Les émotions, ce sont des pensées énergétisées. Au début, il y a une pensée, et puis cette pensée est investie d'une charge affective, d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, et ça devient une émotion. Mais il est bien de voir que pensée et émotion sont dans une continuité, et que, somme toute, les émotions, ce sont des pensées qui ont été chargées, des pensées chargées d'une charge affective, et qui deviennent à ce moment-là des émotions, c'est-à-dire des affects, quelque chose qui nous affecte et nous met en mouvement, qui nous émeut, qui nous put into motion, une émotion, qui nous bouge, qui nous remue. Donc c'est une pensée remuante, une émotion. Faire la distinction entre les deux, ça n'est pas capital. Il y a toute une nuance entre une simple petite pensée et une énorme émotion qui nous emporte. Il peut y avoir toute une gradation. Dans tous les cas, la pratique essentielle est analogue. Elle consiste, eu égard aux pensées, eu égard aux émotions, à rester dans une attitude de non-ingérence, de non-interférence, de rester dans, par exemple, et c'est ce que l'on fait le plus couramment, dans le souffle, dans la sensation du souffle, sans commencer à suivre le fil des pensées ou le cours de l'émotion. Inspiration, expiration, ça respire. Donc, l'on est dans la sensation, l'on est sensation, et l'on laisse le mental, l'on laisse la pensée, l'on laisse l'émotion sans s'en préoccuper, sans suite. Et le seul fait de rester ainsi dans la sensation au souffle, va, le seul fait par là même de ne pas donner suite à l'émotion, non seulement va faire qu'elle n'aura pas de suite, qu'on ne va pas la suivre, qu'elle n'aura pas de suite, et va aussi en même temps faire que son énergie va se dissoudre, va se diluer, va se calmer, va s'apaiser, il va va y avoir une décharge de l'émotion et un apaisement de celle-ci. Donc, ce remède essentiel est pertinent aussi bien eu égard aux pensées que par rapport aux émotions conflictuelles. Si nous continuons, je crois que c'est votre tour.
Oui, c'est à moi. Alors, une question donc anonyme. Donc, la rapidité de la progression est-elle proportionnelle au temps et à la fréquence de l'assise ? Avec une sous-remarque qui serait, est-ce que c'est mieux 20 minutes de méditation par jour ou de faire l'expérience d'une retraite de plusieurs jours ?
C'est comme le travail. On a le salaire en fonction de son travail et je dirais de son temps de travail. Travailler une heure, ça n'est pas pareil que travailler un mois. Pour le salaire, c'est sûr. Dans la pratique, c'est pareil. La pratique est un entraînement. Si l'on s'entraîne pendant une heure, ça n'est pas pareil qu'un mois d'entraînement. C'est évident dans toutes les disciplines. Et c'est pareil dans la pratique de la méditation. Donc, de ce point de vue, l'entraînement, la progression, les progrès dans l'entraînement sont effectivement proportionnels à l'intensité de l'entraînement et au temps que l'on y consacre. C'est la raison pour laquelle on peut certaines fois bloquer beaucoup de temps ou se consacrer pleinement à la pratique dans une période de retraite qui dure aussi longtemps que l'on le peut. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. De ce point de vue, il est bien de méditer quotidiennement, 20 minutes au moins tous les jours, et aussi d'avoir des moments de retraite, quand on le peut, un week-end ou une semaine de vacances ou quoi que ce soit, une retraite plus ou moins longue, suivant les circonstances. Mais ensuite, ce qui est important aussi, c'est la qualité. Et la qualité prime sur la quantité. Il ne s'agit pas juste de se mettre en retraite, et puis une fois qu'on est en retraite, ou bien de dormir, ou bien de s'asseoir et puis de rester dans une sorte de torpeur ou d'hibernation. Là, ça n'est plus une retraite, ça s'appelle de l'hibernation. Les marmottes et les ours sont extrêmement bons à ça. Ils font des mois de retraite chaque année. Et ce n'est pas pour ça que nécessairement il y a beaucoup de marmottes éveillées ou beaucoup d'ours éveillés. Ça se saurait. Donc, la qualité de la pratique, et pour la qualité de la pratique, il faut de bonnes instructions, un bon guide, et ensuite, motivation, détermination, attention, rappel, et connaître la bonne pratique. Simplement rester tranquille n'est pas suffisant. Il est indispensable que l'esprit soit clair, lucide. Et la guidance pour la qualité de la pratique est très importante. Et c'est comme pour guérir, il ne suffit pas d'aller à l'hôpital et d'y passer un mois. Il est important d'avoir un médecin, un bon médecin, et qui puisse nous prescrire ce qui est bon, nous suivre et nous accompagner dans la thérapie et dans la guérison. Donc, la quantité et sa régularité est très importante, et aussi la qualité. Et lorsque la qualité de la pratique s'est développée, il est possible de vivre celle-ci dans toutes les circonstances. la pratique assise n'est pas une fin en soi. Il s'agit ensuite de vivre l'état de la méditation, de vivre l'état de présence, là où l'on est, quoi que l'on fasse. C'est l'intégration. Et celle-ci se développe par le rappel dans des circonstances régulières, dans la journée, puis le rappel instantané. Tout cela est l'entraînement, c'est ainsi qu'il est. Pour entrer dans cet entraînement, pour le comprendre, l'expérimenter et savoir comment procéder, il y a une retraite type, par exemple, qui s'appelle l'entraînement fondamental à la présence ouverte. C'est un entraînement fondamental parce qu'il est essentiel à l'expérience de la présence ouverte qui est le cœur de la méditation. Open mindfulness, dit-on en anglais. Et donc, c'est un entraînement et sur la base de cet entraînement, l'on peut pratiquer quotidiennement puis faire des retraites et c'est ainsi qu'il y a une véritable transformation intérieure et un véritable progrès.
Merci à Rinpoche.
Alors c'est autour de vous qui êtes ici, s'il y a des questions parmi vous. Autrement, de passer la parole à Oriane qui va parler pour les internautes.
Donc, une question qui revient sur la première qui a été posée à propos du tapis enlevé sous les pieds. Donc, une question d'Erwan. Dans quelle mesure l'instabilité provoquée peut porter préjudice à une stabilité tout aussi essentielle à la réalisation de l'esprit ?
Il y a la stabilité personnelle, il y a la stabilité de l'expérience profonde, il y a différentes stabilités. Et le guide, le maître doit, avec son discernement, justement pouvoir voir ce dont a besoin le disciple. C'est comme un médecin. Il ne s'agit pas d'injecter une dose de, je ne sais pas, d'un remède de cheval à tout le monde. Hein? Suivant les circonstances, et poison ou remède, tout n'est que question de dosage. Donc, déstabiliser quelqu'un d'instable risque de le déstabiliser complètement. Ce sera mauvais. Donc, quelqu'un d'instable a besoin d'être stabilisé. Par contre, quelqu'un de stable, ça dépend comment est sa stabilité. Si sa stabilité est d'une stabilité profonde, c'est très bien. Si sa stabilité est une stabilité faite de croyances illusoires, il sera bon et sain de déstabiliser sa croyance pour lui permettre de continuer à avancer. C'est ainsi, dit-on, que le Bouddha a enseigné le soi à ceux qui croyaient au non-soi et il a enseigné le non-soi à ceux qui croyaient au soi. On pourrait se dire, attendez, c'est contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. Il a enseigné ce qui pouvait, dans un cas comme dans l'autre, dissoudre les fixations de ses auditeurs pour les libérer de leurs fixations et de leurs croyances illusoires. Entendu que la réalité profonde n'est ni dans un extrême, ni dans l'autre. Et une stabilité qui serait déstabilisée n'est pas la stabilité. Et une stabilité qui repose sur quelque chose est toujours instable. La seule stabilité est celle qui ne repose sur rien. Et pas même sur rien, parce que c'est encore quelque chose. C'est le sans-appui. Après Orgel, c'est mon tour à nouveau. C'est le tour de la boîte. Quelle est la différence entre Dzogchen dans la pratique de Chenrezig et Vipassana? Non, d'abord, il peut ne pas y avoir de différence, et ça peut être des synonymes. Néanmoins, lorsque l'on parle de Vipassana, il y a beaucoup de Vipassana. Il y a beaucoup de pratiques de Vipassana. D'abord, différentes écoles utilisent Vipassana dans des sens un petit peu différents. Vipassana, le sens de discernement, d'attention qui distingue et discerne, mais ce discernement peut avoir lieu à des niveaux très différents. Vipassana peut être analytique, conceptuel. Vipassana peut être non analytique, contemplatif, direct, immédiat et aconceptuel. Très différent. Donc, il peut y avoir un discernement et une analyse rationnelle, conceptuelle, et c'est utile, très utile. Et il peut y avoir aussi un discernement qui se fasse dans la contemplation nue, aconceptuelle, en laquelle s'éveille une compréhension immédiate. Donc, c'est la dimension profonde de Vipassana, non conceptuelle. Et ce Vipassana non conceptuel est la véritable dimension de Dzogchen, la phase de perfection. Voilà.
Alors, Rinpoche, je vais continuer par deux questions qui sont peut-être un petit peu reliées, et peut-être que c'est possible de les mettre ensemble. Alors, une question sur les syllabes germes. Qu'est-ce qu'une syllabe germe? Et il y a aussi une question sur la signification d'om a hong.
Une syllabe germe est un germe, une graine. En sanskrit, on dit bija. Une graine sonore. Et le son est une vibration. Donc, le son est aussi un souffle. Qu'est-ce qu'un son? C'est du souffle qui vibre. Si je dis om, ce sont mes cordes vocales qui font vibrer l'air et le souffle et l'air deviennent porteurs de cette vibration qui est entendue ou qui donne ce son, om. Et ce serait vrai pour n'importe quel son. A, E, I, O, U et toutes les lettres de l'alphabet. Donc, entendons que le son est du souffle en mouvement et du souffle énergie, une vibration énergétique. Et le souffle énergie a une fonction, un pouvoir créateur, si l'on veut, ou manifestateur. Dans l'intelligence de l'esprit et de ses expériences, il y a toute une, on pourrait dire une typologie suivant ce que l'on nomme dans le Vajrayana le mandala. Le mandala, c'est la structure organisée de l'expérience. C'est une façon de modéliser la phénoménologie du dharma dans un modèle qui est une source d'intelligence, de compréhension et aussi un support de pratique. Et donc dans cette intelligence du mandala, il y a différentes familles ou différentes catégories qui correspondent à différentes qualités éveillées, à différentes qualités d'expérience, différentes qualités de manifestation et aussi à différentes émotions. Et celles-ci, leurs énergies respectives sont exprimées par des sons qui ont aussi comme représentation des syllabes, qui sont l'inscription d'un son, des syllabes germes. Om, Hong, Cham, Ri, A, pour mentionner les cinq familles et leurs syllabes germes, les classiques. Dans l'apparition d'un aspect de l'absolu, la dimension qui va être celle de son apparition, car il ne peut apparaître que sous un aspect et une dimension, il apparaît, cet aspect de l'absolu, ce yidam, cette déité, d'une syllabe germe, qui est son énergie principielle. Et de la syllabe germe se développe sa manifestation, son apparence, par étapes. Donc, il y a cette intelligence qui est utilisée aussi dans les mantras, qui sont des, ou qui utilisent des syllabes germes et qui sont eux-mêmes des paroles efficientes, des paroles de pouvoir, qui ont un pouvoir à la fois protecteur et révélateur. Pour ce qui est de Om Arum, c'est un excellent exemple, et c'est le Om Arum, peut-être le prototype de tous les mantras. Il y a Om au début, Hong à la fin, et A entre les deux. Et des mantras plus compliqués ont souvent, généralement, la même structure, avec Om au début et Hong à la fin, et avec au milieu A qui peut être développé sous un nom particulier. Exemple, Om Mani Padme Hong. Hein? Et Om est une syllabe germe qui exprime l'éveil dans ses trois dimensions. Hong est une syllabe germe qui exprime l'énergie éveillée dans ses cinq qualités. Et au milieu, si on prend l'exemple de Mani Padme, il y a Mani qui est joyau, Padme, lotus, dans le lotus, le joyau dans le lotus. Le joyau de l'immense bonté dans le lotus de la sagesse ou du pur esprit. Pour ce qui est d'Om Arum, dans l'intelligence traditionnelle et symbolique, les perspectives sont il y a différentes perspectives et les symboles sont polysémiques. Ceci simplement comme une mise en garde par rapport à la systématisation. Le mental voudrait avoir quelque chose d'extrêmement carré, fixe, précis. Le symbolisme et l'utilisation des différentes formes d'expression symbolique, sonore ou visuelle, est une sorte de métalangue qui est beaucoup moins analogique, qui ne suit pas une logique linéaire, mais qui a différentes formes d'analogie. Pour ce qui est de Omar Rong, ce sont les syllabes germes des trois corps de l'éveil, des trois dimensions de l'éveil. Les trois dimensions de l'éveil étant les trois dimensions de notre personne au niveau éveillé. Nous sommes, en tant que personne, corps, parole, esprit. Nous avons un corps, une parole, souffle et parole, et esprit. C'est une façon de décrire la personne, un paradigme très pertinent et très utile. Corps, parole, esprit. Corps, souffle, esprit. Et au niveau habituel et au niveau éveillé, il y a aussi corps, parole, esprit, mais éveillé, le corps éveillé étant ce que l'on nomme nirmanakaya, parole, souffle, énergie éveillée étant ce que l'on nomme sambhogakaya, et l'esprit éveillé, tout éveillé, au-delà de la dualité, dharmakaya. Ces trois corps sont exprimés par Om Ahong. Om étant la syllabe germe du corps, Ah, celle de la parole et du souffle, et Hong, celle de l'esprit. Généralement. Et Om étant blanc, Ah est en rouge et Hong est en bleu. On a blanc, rouge, bleu. Donc, Omar Rong a beaucoup de sens, a beaucoup d'utilisation en termes de pratique. Ce sont trois syllabes germes, c'est aussi un mantra. C'est le support de nombreuses pratiques et même de toute une voie de progression. Et il est bien de l'entendre simplement comme l'expression de l'éveil dans ces trois dimensions fondamentales que l'on nomme le Trikaya, les trois corps dont j'ai donné les noms juste précédemment. S'il vous plaît. Je pense qu'il est peut-être temps de conclure par un moment de contemplation. Omar Rong confortable dans notre corps, le souffle au repos dans son état naturel, restant en une expérience ouverte, spacieuse, en une ouverture des sens, toute dégagée, ainsi au repos. toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Om Aum, bonne soirée et que tout soit propice.